Alors, continuons notre pause méridienne cartographique par un parti pris. Qu'est-ce qu'un parti pris ? Alors, un parti pris, c'est un débat, c'est une discussion organisée en général par la médiathèque avec des experts de l'Institut et un regard extérieur. Donc, ça peut être des photographes, des auteurs de BD, des réalisateurs. Nous avons d'ailleurs accueilli récemment un réalisateur de documentaire sur le vélo Amsterdam, le vélo aux Pays-Bas. Nous avons accueilli aussi un auteur de BD, enfin tout ça en rapport avec les thèmes traités par l'Institut. Donc il y a un échange entre l'Institut et un regard extérieur. Donc nous accueillons aujourd'hui les auteurs de ce superbe livre, Terraforma, manuel de cartographie potentielle, avec Alexandra Arène et Axel Grégoire. Voilà. Deux. Et côté Institut, nous avons Lucille Mettetal, qui est géographe urbaniste, et Laurie Gobled, qui est géomaticienne cartographe, à l'initiative, comme l'a dit Fouad, des ateliers carto, et de cette belle expo qui est derrière vous. Donc, mesdames, je vous laisse le micro.
On déplie la carte. L'œil reconnaît les lignes, s'oriente et construit l'espace. Pour Saint-Marie, le doigt se pose sur le papier, transposant par ce biais le corps, le faisant voyager dans l'espace, autorisé à la déambulation, l'espace public, le paysage. Mais très vite, il se heurte aux limites parcellaires, aux blocs construits, se restreint à ce qui est parcourable, empruntant les routes, n'osant s'aventurer dans le blanc, qui dessine une toute autre mosaïque. Nos visualisations de la Terre sont fondées sur d'anciennes images cartographiques et géologiques, conçu comme un outil de colonisation, une manière d'écrire le récit d'une conquête où le civilisé s'empare des territoires soi-disant vides, mais qu'il s'agit en fait toujours de vider, car ils sont peuplés. Peuplés d'organismes, de traces commémoratives, d'éléments industriels, de roches, de bactéries, conglomérats d'organismes vivants et d'objets hébergés enfouis sous nos pieds. Dans ce sol hétérogène, ce ne sont plus les limites administratives en surface, mais le corps en mouvement des vivants qui devient le moteur de la carte.
Vous l'aurez deviné, il s'agit d'un extrait de l'ouvrage Terraforma, qui est le fruit d'une collaboration entre une historienne et deux architectes. Vous avez un aperçu de cette écriture riche, dense et à la fois poétique. Cet extrait, il a été choisi car il résonne dans nos esprits ici à l'Institut. Si la carte, elle a été historiquement conçue comme un outil de colonisation, un outil pour dominer le monde, pour les urbanistes, elle est un outil d'aménagement. L'analogie est tentante. Les couleurs claires suggèrent des espaces vides, donc potentiellement constructibles, à investir ou à conquérir. Il est vrai que si les conventions et les codes sont indispensables, en ce sens qu'ils permettent un langage commun, donc une compréhension immédiate et partagée, on en oublie qu'ils portent en eux un sens. L'intensité du violet, traditionnellement utilisé pour représenter les zones d'activité, sous-entend qu'elles seraient intouchables, alors que le jaune pâle des espaces agricoles qui sont plus ou moins inoccupés et pourtant. Cartographier le vivant, c'est un peu renoncer à cette conquête, introduire des scrupules encombrantes, montrer une réalité qui serait plus difficilement aliénable. Et pourtant, les enjeux ne sont plus les mêmes, vous le dites. Il faut changer de ton, de posture, révéler un autre monde, faire d'autres vies que les nôtres, montrer l'épaisseur du sol, soulever la peau, montrer la chair, comme l'a fait Francis Bacon. Montrer la chair quand la civilisation occidentale s'évertue à décrire l'être humain comme un esprit en niant sa corporalité. Alors oui, les cartes illustrent notre représentation du monde, nos visions parfois binaires, faites de plein et de vide. Les cartes révèlent nos dénis, ce que nous avons voulu occulter, mais aussi notre incapacité à saisir le territoire dans son entièreté, dans sa complexité. Composé d'êtres en mouvement, qui font fi des frontières dessinées sur la carte, sauf, dites-vous, si nous partons de ces mouvements pour tenter de comprendre le territoire, sauf encore à considérer la frontière comme une épaisseur et non comme une ligne, une épaisseur vécue sur laquelle on cohabite. Une cartographie est un exercice périlleux, puisque l'objectivité ou la neutralité n'existe pas. La carte oriente, la carte dissimule, la carte révèle, la carte raconte l'histoire qu'on a envie de raconter. La carte reflète nos codes esthétiques, parfois lisses et cosmétiques, alors que le monde est bordélique. Et pour accéder à d'autres vérités, il faut certainement se débarrasser des codes, ouvrir d'autres chemins, quitte à se perdre. Et c'est cette déambulation parfois hasardeuse. C'est dans cette déambulation qu'on fera certainement de belles découvertes, n'est-ce pas, Laurie ?
Oui, c'est vrai que ces déambulations cartographiques nous ont permis de belles découvertes. À l'Institut, effectivement, on a cette habitude de la carte pour comme outil de la décision, pour localiser, montrer, convaincre. Donc on s'appuie pour ça sur des règles sémiologiques, graphiques, héritées de Jacques Pertin, avec des méthodes mathématiques, des outils, etc. On s'imprègne de ces règles et de ces codes pour construire cette grammaire visuelle commune qui nous permet d'être compris, qui permet que chacun puisse lire et comprendre les cartes. Alors le travail en atelier cette année nous a permis de faire un peu un pas de côté par rapport à ces règles et ces codes, même si on en est fortement imprégné. L'idée, c'était de travailler à travers le prisme du regard et du changement de perspective. Donc il a fallu pour ça qu'on se perde un petit peu, pour pouvoir faire des expérimentations cartographiques. On voulait essayer de trouver des moyens de montrer autrement ou différemment les volumes, les distances, le petit. Revenir un petit peu à cette définition de la carte comme un moyen de montrer l'invisible ou ce qu'on ne voit pas. Donc en début d'atelier, on a pas mal échangé et discuté sur les éléments visuels qu'on avait à notre disposition pour susciter le regard. Donc la forme, la couleur, mais aussi la direction, la densité, la luminosité, et comment est-ce qu'on pouvait jouer sur ces différents éléments. Donc ça donne des productions variées, qui sont décalées, déformées, transformées. Ça va de la simple inversion de couleur pour la carte des densités à l'inversion de contenu pour les espaces naturels. Ça va par le détournement de traitement pour la carte des revenus en relief ou alors des croisements un peu spécifiques pour le maillage routier. Et puis progressivement, au fur et à mesure de notre cheminement et de nos déambulations, on a lâché aussi de plus en plus de choses. On s'est affranchi des limites administratives. Et puis, quitte à y aller, on s'est dit, on va aussi essayer de travailler de manière monochromatique, très fortement influencée par vos reproductions, je dois bien vous l'avouer. Mais on s'est dit, tant qu'y aller, on va y aller jusqu'au bout. Pour vraiment essayer de forcer le regard et de vraiment travailler sur le message. Alors c'est vrai que on se perd un peu parfois, mais c'est volontaire. Quand on lit une carte, on cherche toujours des repères que l'on connaît. On cherche sa commune, on cherche un élément du relief, la Seine, on cherche un croisement de route qu'on connaît bien pour se repérer. Là, on voulait vraiment s'en abstraire complètement pour réinterroger notre rapport au territoire, mais se réinterroger aussi ce que tu évoquais, Lucille, par rapport au vide, par rapport au creux, par rapport aux échelles, peut-être aussi un petit peu par rapport à cette notion de l'espace perçu. Et quand je vois les réactions des gens, parce que les panneaux sont installés depuis lundi, je me dis que ça marche, en fait. Les gens se laissent embarquer dans la lecture de ces cartes. Ils arrivent à imaginer des axes que nous, parfois, on n'avait même pas imaginés. Petit à petit, ils ouvrent de nouvelles perspectives. Et puis, ils se réapproprient ces cartes qui sont un petit peu différentes de celles qu'ils ont l'habitude de voir habituellement. Alors, c'est vrai que quand on a découvert Terraforma, Votre ouvrage a complètement fait écho aux interrogations et aux explorations qu'on avait envie de mener dans le cadre de cet atelier, même si vous poussez le changement de perspective beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire. Et ce que je trouvais particulièrement intéressant dans votre ouvrage, c'est ce besoin ou cette nécessité d'avoir un changement de perspective complètement différent pour montrer le vivant, pour montrer des points de vue qui se croisent, qui se mêlent, qui s'opposent, qui se superposent. Et cette façon que vous avez de passer du point de vue... Alors c'est marrant parce qu'en parlant hier avec Lucille, tu as fait ce geste-là, tu m'as dit pour passer du point de vue au point de vie. Et c'est marrant parce que c'est complètement ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne à travers vos productions. Et ça donne de l'objet cartographique quelque chose d'un peu mouvant, qui est presque malléable. Mais j'en ai peut-être déjà trop dit, donc je pense que le mieux, c'est que vous nous en parliez.
Déjà, merci de cette invitation. Et peut-être que pour commencer à parler de terraformat, il faudrait parler de sa préhistoire et pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qui a motivé en fait ce chantier de reconstruction du regard, comme on l'appelle. Et Terraforma, c'est un projet un peu au long cours, et finalement le livre, c'est comme un premier jalon. Nous, on est architecte avec Alexandra, mais en fait on s'est rencontrés dans une agence de paysage. Donc en fait c'est peut-être ça en fait le point originel, c'est ce déplacement de l'architecture, donc avec nos outils de représentation, que ça soit la coupe, l'axo, enfin le plan. Pour traiter d'un sujet qui était celui qui du vivant, mais à plusieurs échelles. Et finalement, ça nous a, on s'est heurté au fait de s'intéresser au blanc des cartes, aux aplats verts et un peu à ces choses qui n'étaient pas représentées. Du coup, je pense que c'est le point de départ du livre et c'est ce qui nous a motivé un peu à mettre sur la table tous nos outils et de les démanteler, de comprendre pourquoi on représentait les choses comme ça et qu'est-ce que ça induisait en fait. Parce que vous parliez de cartes pour faire des diagnostics, la carte elle a plein de rôles. Et nous, pour nous, la carte c'était aussi une carte qui devait aller vers la prospective, une carte dans laquelle on devait se projeter. Et en fait, on se rendait compte que la façon dont on représentait les choses induisait une action sur les territoires. Et que si on changeait de regard, on pouvait peut-être agir différemment. Donc c'est un peu vraiment le point de départ. Et du coup, c'est parti d'une liste très très pratique en fait de d'écueils qu'on avait rencontrés à travers plusieurs projets sur lesquels on avait travaillé. Donc plutôt des projets de grand territoire. Ça pouvait être justement la question des sols qui était toujours prise par le foncier, donc ça posait problème. C'était la question de justement la multitude des points de vue qui n'étaient pas intégrés dans le dessin des cartes. Et voilà, on est parti d'une liste très simple. On avait commencé à déployer un peu ces questions. Et il y a eu la rencontre avec Frédéric Atouati, donc historienne des sciences, avec qui on a coécrit le livre. Et là, ça a pris une autre dimension. Ça nous a permis d'être aussi plus radical, d'intégrer tout un champ philosophique et toutes nos lectures qui étaient plus de l'ordre des sciences humaines sur la question du point de vue avec Emmanuel Coccia, que ce soit Bruno Latour sur les humains et les non-humains et la question de la cosmopolitique. Donc voilà comment un peu le projet s'est étoffé.
C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur des projets de territoire souvent en ruine. Donc c'était aussi un des points de départ, c'est comment on réhabite dans ces paysages un peu dévastés ou en hérité des industries. Donc il y a un dernier modèle qui parle un peu plus de ça, où on essaye de collecter un peu toutes les traces et de voir comment, dans une prospective à plus long terme, on pourrait développer des territoires, mais ça peut être aussi des fictions, en fait. Le livre n'est pas basé sur des fictions, c'est plus quelque chose qui se lirait comme un manuel. C'est la première étape, comme disait Axel, parce que l'idée, c'est après d'aller d'utiliser ça pour faire d'autres projets de recherche ou projets pratiques, et d'arriver avec cet outil qui n'a pas vocation à être des cartes déjà toutes faites, mais c'est plutôt la façon, le schéma, la façon dont on essaye de déconstruire une grammaire pour essayer d'en recomposer une autre. Et du coup, on a un certain nombre de questions en fait qu'on a héritées de nos projets, et chaque modèle traite d'une question particulière. Donc si je prends un petit peu tous les modèles, donc il y en a 7. Le premier, c'est le sol. Donc la première question, c'est et si on regardait les profondeurs et pas uniquement la surface ? Le deuxième, c'est et si un territoire était un terrain de vie ? Et donc, si on passait d'un point de vue, comme vous disiez, un point de vie, qu'est-ce que c'est un territoire qui est vécu et qui est impacté aussi par le climat ? Peut-être qu'on y reviendra après. Et si le paysage était fabriqué par le croisement des animés, donc c'est les êtres humains et non humains, et finalement c'est ce croisement qui fait la matrice, qui fait la matière du paysage. Ensuite, et si la frontière était un continuum, donc ça on avait un peu parlé. Après il y a les questions de comment, donc comment noter les rythmes de vie, donc ça c'est le... Comment on trouve une nouvelle façon de noter, un peu comme la notation musicale, pour essayer de décrypter les différents rythmes, les séquences, enfin tout ce qui fait que on vit tous à des rythmes, temporalités différentes. Et comment passer d'une vision ressourciste de la Terre à autre chose, et donc quoi ? Donc ça c'est le modèle ressources. Et ensuite, comment vivre dans les ruines et prendre en compte les temps longs de certaines ruines. Donc c'est le dernier modèle qui a un caractère un peu plus prospectif.
Et en fait, le livre est construit à partir de modèles qui sont des outils et qui donnent des cartes, mais qui sont dans le livre des cartes qui illustrent la façon dont pourrait jouer l'outil, mais qui n'ont pas vocation à être des images iconiques, justement, c'était que des tests. Et là, ce qu'on développe en ce moment, justement, c'est de tester ces outils sur des projets particuliers et de voir, de tester leurs limites et de voir ce qu'ils révèlent aussi. Et une de nos grosses références, et ça, c'est notamment grâce à Frédéric, c'était Robert Hooke et Micrographia qui a inventé le microscope et qui a du coup donné à voir un monde du quotidien mais d'une façon complètement différente. Et du coup, c'est cette idée de révélation en changeant d'optique, c'est un peu comme ça qu'on a construit conceptuellement ces cartes où chaque chapitre, chaque problématique a une optique pour pouvoir justement se donner à voir. Enfin, révéler un invisible qui va nous aider à penser le sol, la frontière, voilà. Donc ça, c'est vraiment construit comme ça, en deux parties.
Oui, on est beaucoup intéressé par l'espace aussi, qu'on est architecte, normal. On a croisé ça avec les cartes, mais c'est vrai que la question de l'espace, elle est aussi essentielle dans notre pratique, et comment en fait l'insertion ou la survenue, je ne sais pas comment dire, de la présence du vivant va modifier la façon dont on conçoit l'espace et comment on le perçoit, mais aussi comment on va le projeter. Donc, il nous semblait qu'en fait cette survenue du vivant, ou des questions aussi climatiques, environnementales, modifie notre perception de l'espace et la façon dont on va le présenter. Et donc toute cette terraforma, c'est aussi cette recherche de ce vivant qui terraforme en fait la Terre, qui du coup comment on le décrit et comment on en rend compte. Donc c'était aussi une question, parce qu'on travaille aussi avec, on n'en a pas parlé, avec les scientifiques de la Terre qui nous ont aussi posé, ça a amené beaucoup de questions sur nos propres outils, nos propres représentations. Et là on s'est rendu compte qu'en fait il y avait des territoires en profondeur, il y avait des réactions chimiques qui se passent et on n'a pas forcément les outils adéquats.
Et peut-être qu'il y a trois façons de lire Terraforma. Il y a à la fois le récit de voyage, parce que la question de l'écriture, elle est présente justement. Enfin, finalement, on a pensé notre façon de travailler avec Frédéric comme une sorte de contre-conquête spatiale, dans l'idée où justement, pas la tentation de quitter la Terre, mais de la re-regarder, mais aussi contre-conquête, dans l'idée que justement, on ne va pas coloniser les blancs des cartes. Mais donc il y a ça, il y a la question du récit qui est très présente, mais il y a, comme le dit Alexandra, l'idée de visualiser des théories scientifiques du système Terre, mais surtout de un peu mesurer la portée politique de ces idées-là. Et du coup, ça c'est quelque chose qu'on a découvert au fur et à mesure, et de se dire en fait, parler de ça, ça devient vraiment... ok, il y a quelque chose qui se passe sur où on se positionne quand on redéfinit en fait les termes du territoire. Et puis à la fin, enfin, le choix du manuel et pas de faire un atlas, parce que ça a été une question un peu tout le long du travail, c'était de pouvoir justement... c'est pour ça que la part de... Quand je parlais de modèles et de... Enfin, en bleu, à chaque fois, il y a les modèles et les cartes noires sont des sortes d'illustrations des modèles. Mais la part de communication sur la question de comment on fabrique la carte est très importante, parce que l'idée, justement, c'était de dire, en fait, il n'y a pas d'objectivité vraiment, il y a un code partagé. Donc voilà, nous, on change le code et on le partage pour pouvoir en discuter, même si les cartes, elles semblent désorientantes. Enfin, c'est des cartes qui désorientent plutôt qu'elles n'aident à se repérer. Mais en tout cas, elles participent à définir un peu le chaos et à ce chantier de repositionnement politique, peut-être. Et le fait que ça soit un manuel, c'est aussi l'idée que voilà, la carte, c'est un objet frontière qui peut convoquer différentes disciplines, et c'est pour aller vers justement des travaux pluridisciplinaires qu'on a créé ça, et c'est ce qui se passe parce qu'Alexandra travaille avec les scientifiques. Voilà, on a plein de champs d'application de la carte. On teste certains des modèles aussi dans des champs, notamment autour de Bruno Latour, où la question elle est plus de se repositionner, enfin de penser le terrain, enfin de se réarmer, se réoutiller dans la description des territoires pour penser un sol commun. Donc là, c'est aussi un autre but, et peut-être que mémoire et ruines, que mémoire et ressources sont des modèles qui pourront aider aussi à, dans un univers plus prospectif, comme celui de l'urbanisme, par exemple. Donc voilà, on est un peu en train de tester des champs d'application de ces outils-là.
Oui, par moments, c'est presque un essai politique un peu caché derrière une technicité extrêmement élaborée. Mais ce qui nous a intéressé, c'est la volonté de cartographier ce qui est mouvant, insaisissable, le rapport physique au territoire, ce qui paraît presque paradoxal, c'est-à-dire c'est figé ce qui relève du mouvement, des déplacements et des usages qui nous semblaient assez presque un peu oxymoriques, ou en tout cas paradoxal. Et moi, il y a un passage qui m'a interpellée, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus, quand vous évoquez le fait de visualiser les coïncidences et les frictions entre espace et temps, afin de passer de la planification à la ville des temps potentiels. Si je pouvais vous entendre un peu là-dessus.
Oui, en fait, sur espace-temps, c'est peut-être celui justement dont on a le moins parlé à travers toutes les présentations, donc c'est intéressant qu'on s'arrête dessus. L'idée, c'était de se dire que justement, si on pense la carte comme une partition, il y a un peu c'est vraiment comme dans la musique contemporaine, il y a celui qui fait la partition et celui qui l'interprète. Et du coup, il y a une part de liberté aussi d'interprétation qu'on voulait mettre en avant. Et si on se repositionne comme architecte, en tout cas du côté des aménageurs, la question là, c'est plus d'être un chorégraphe en fait dans ces espaces-temps plutôt que de les figer. Et moi, ce que j'aimais bien développer dans ce modèle, on a dit qu'on a fait une sténographie des espaces-temps en fait, mais il y en a une dizaine, mais chacun pourrait inventer en fait, parce que la question c'est aussi comment on intègre la part de subjectivité dans la perception. Et elle est complètement assumée. Et du coup, voilà, si tu peux mettre l'image un peu qui devient l'espace-temps monstrueux, enfin, monstrueux parce qu'il ressemble à peu de choses, mais enfin, voilà, là, en fait, on voulait montrer qu'il y a une plasticité de ces espaces-temps, qu'on peut... l'idée, c'était aussi de dépasser, justement... les frictions entre le temps politique, le temps du projet, le temps de la ville, voilà, on a senti ça quand on faisait du projet, en fait, qu'il y avait, donc on avait voulu complètement détourner la question par...
C'est plus sur la programmation aussi d'essayer d'avoir des codes graphiques pour noter différents temps en relation avec les espaces, mais ça me fait penser aussi aux cartes, en fait, sur des variations... de l'espace en fonction du temps, c'est ça, par son anamorphose.
Et vous dites envisager aussi des modes de fabrication des territoires. En fait, j'ai à chaque fois relevé des phrases qui faisaient écho forcément à nos métiers, des modes de fabrication des territoires intégrant les affects et les corps. Et c'est pareil, ça nous paraît super balèze, donc du coup, on aimerait vous entendre.
La sortie du contexte, c'était dans quel modèle je me réfère.
C'est la page 147, je peux le retrouver. Oui, alors c'est quel modèle?
Mais oui, enfin ça c'est un peu ce qu'on disait sur le fait que ce qu'on va représenter, ces ressources. Mais plus généralement sur le fait que ce qu'on représente et ce qu'on va dessiner, ce qui va se matérialiser dans l'espace, va induire un comportement. Il y a le Pérou qui travaille aussi sur ces questions d'imaginaire et j'entendais quelqu'un de ce groupe dire si on met des barrières dans la rue, ça veut dire quelque chose. Mais voilà, chaque trait en fait qu'on dessine veut dire quelque chose. Après, ces cartes, elles n'ont pas justement vocation à devenir Elles analysent, elles permettent de se repositionner et induisent peut-être des actions, mais elles, c'est pas des cartes de planification qui vont venir sur le territoire et s'y imposer. Du coup, là, on est aussi libre dans le dessin en plus aussi parce que
par rapport à cette question de affect et corps, enfin, je fais référence au point de vie. Du coup, là, dans le point de vie, en fait, on voit que on a inversé le rapport intérieur-extérieur pour faire passer l'espace, l'espace, le territorial, dans son propre point de vie. Donc l'idée, c'était à la fois de questionner les rapports d'échelle entre le local et le global, l'emboîtement aussi des différentes échelles. Finalement, on vit à toutes les échelles, à la fois notre peau, l'espace du bâtiment, le quartier, et puis plus on va... Enfin, on peut aller loin, en fait, on peut aller presque jusqu'au monde, enfin, ça dépend des gens. Et surtout, en fait, que ces différents espaces, ils sont impactés par des variations climatiques, et que même si une variation qui peut être loin, elle nous impacte aussi au niveau de notre peau. Et du coup, c'est ce qui est représenté par cette coupe qui relie du coup les différentes échelles, et que ça soit la sécheresse ou peut-être pas les pluies acides, mais enfin quoi que si, on a aussi. Voilà, c'est aussi montrer que le corps est affecté par des environnements globaux, ce qui se passe à des échelles globales.
Oui, c'est quand même un peu un plaidoyer qui est d'actualité, vous le dites, hein, pour repenser les usages du monde. Donc on est vraiment au-delà d'une approche qui serait une approche cartographique ou technique. On est sur, je le disais, il y a un côté un peu essai politique dans cet ouvrage. Qui n'est pas forcément dit, mais qui, à la lecture, est assez évident, me semble-t-il. Mais je ne sais pas si vous l'avez conçu un peu comme tel. Parce que finalement, je le trouve très militant. Enfin, plus je le lis, plus je le trouve militant, même si ce n'est pas un langage militant.
En tout cas, ça n'a pas été pensé. Au départ, c'était pas du tout l'idée, c'était pas le but. Mais en fait, effectivement, vu qu'on était nous-mêmes dans une exploration vécue avec nos cartes, on se saisissait de ce qui apparaissait à nos yeux aussi. Et puis, de toute façon, peut-être que ça nous a aussi, ça nous a politisé entre guillemets dans l'idée que voilà, on avait, en tant que justement architecte et qu'est-ce que ça voulait dire de bâtir ? Est-ce que justement construire des outils qui permettent une transformation du regard, est-ce que c'était pas plus notre façon de faire ? Voilà, ça nous a obligés aussi à définir une posture, peut-être. Et c'est peut-être de là que...
Oui, pour de vrai, c'est un livre qui interpelle l'ensemble de nos métiers, vraiment. Voilà, qui veut dire quelque chose ?
Donc moi je l'ai lu aussi votre ouvrage et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, passionnant parce que j'y vois, comme tu disais aussi Lucille, c'est pas simplement, me semble-t-il, un manuel cartographique, mais véritablement une rupture avec nos manières de représenter, de nous voir le monde et d'être au monde. C'est comme ça que je pense que vous avez essayé de le construire. Et c'est pour ça que j'y vois un ouvrage, véritablement un essai politique, mais au sens fort du mot politique, c'est-à-dire dans cette capacité à transformer notre regard sur notre société, sur la manière dont on veut construire notre société. Alors, on y trouve très bien justement toutes vos approches des philosophes de l'écologie, que ce soit effectivement Stengers. Et surtout, je trouve que dans le changement de regard, c'est ce que vous dites sur paysage des vivants. Et dans ce que vous, créez, vous décrivez, cette notion du paysage des vivants, c'est faire avec l'ensemble des vivants, c'est transformer fondamentalement le regard qu'on a sur la nature. Donc c'est d'être dans une approche là même qui est même anthropologique, dans notre rapport même qu'on peut avoir avec l'objet nature, non pas tel qu'on l'a conçu depuis le 17e siècle comme quelque chose d'extérieur, mais faisant partie aussi de notre propre monde. Donc ce qui amène ce rapport différent à envisager une représentation différente. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, moi qui suis plutôt sociologue, donc pas du tout spécialiste de la carte, en fait, grâce à votre ouvrage, je réussis à visualiser, à représenter un certain nombre d'approches qui sont des approches justement sociologiques, ce que dit Latour. En fait, vous réussissez, je trouve, à le mettre, j'allais dire, en scène, en forme. Et pour des sociologues, par exemple, ça nous aide à comprendre. Ça nous donne aussi des outils d'analyse pour essayer de transformer l'action publique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous offrez des modèles qui ne sont pas applicables dans l'immédiat, mais qui nous appellent à réfléchir, qui nous appellent à transformer notre manière d'analyser en partant du micro. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment ce renversement, et vous montrez très bien à travers la carte qui est là. Dans le fond, ce qui est peut-être plus important, c'est de partir de cette approche micro et pour saisir et pour aller vers ce global. Donc je trouvais que vraiment, il y a énormément de choses, on aurait pu revenir sur la question du temps, votre manière de réfléchir sur le temps, pour nous aussi acteurs de la ville, c'est fondamental, et là encore, ça rejoint un écrit récent qu'a fait Marc-Olivier Padis sur la nécessité de développer, d'envisager des espaces publics avec des temps différents, ce que vous montrez très bien, il faut comprendre aussi les temps de chacun pour pouvoir construire des temps différents dans l'espace public. Alors voilà, plein de choses on pourrait dire sur cet ouvrage, mais je terminerai, vous avez toute une approche assez critique finalement, ce que vous disiez un peu tout à l'heure, sur la nouvelle figure de l'architecte. J'ai envie de dire, pour vous, l'architecte tel qu'il existait auparavant, la figure de l'architecte bâtisseur, on dirait qu'elle est morte. Est-ce que c'est le cas ?
Position critique peut-être, mais pas polémique. Enfin, en tout cas, l'idée, c'était pas de dire qu'il faut plus d'architectes, il faut plus rien écrire, enfin, il faut plus rien construire. C'est pas ça. Mais par contre, effectivement, par rapport à notre propre parcours, il y a eu un glissement qui s'est fait, et notamment parce que finalement, les architectures de pensée sont aussi, créent du territoire aussi, en fait. Donc, finalement, travailler sur les outils ou enfin, pour moi, c'est comme faire de l'architecture, Et comme on, c'est vrai qu'on avait affaire beaucoup à des territoires en ruine, la question de rebâtir ou pas se posait. Donc, justement, l'acte bâtisseur et l'idée que justement, si on pense la Terre comme qu'elle est terraformée par tous les vivants qui y vivent, de toute façon, chacun est construit de l'espace à sa façon, donc que ça soit un humain ou que ça soit un agriculteur ou que ce soit un architecte, donc ça ouvre un peu le champ de ceux qui participent à l'aménagement des territoires.
Je suis très heureuse que ça puisse contribuer à donner des outils pour les sociologues, parce que nous, ça nous a beaucoup inspiré aussi, les disciplines qu'on n'était pas forcément, on n'est pas issus de là, mais en côtoyant Bruno Latour, enfin, c'est dit qu'enfin, tout un champ aussi, l'ethnographie, l'anthropologie, qu'on ne percevait pas forcément quand on était dans la pratique. Et ça rejoint un peu cette question de redécrire les territoires. Donc c'est un peu sa question en ce moment, c'est comment chacun pour retrouver une parole politique peut redécrire les territoires, mais vraiment en partant des attachements, des questions de subsistance. Mais tout ça, ça génère des pixels ou des micros, dites. Et après, c'est comment on crée un territoire partagé à partir de ça.
Bonjour. Alors moi, j'ai un milliard de questions, mais je vais en faire qu'une. Je vais me présenter aussi, ça va vous éclairer. Je m'appelle Karine Hurel. Je suis à la FNO, la Fédération des agents d'urbanisme aujourd'hui. Mais avant, j'ai fait à peu près une dizaine d'années en tant que responsable de la cartographie de la DATAR. Donc j'en ai fait plein des cartes. Et on s'est posé un milliard de questions aussi sur les cartes qu'on produisait et comment elles fonctionnaient. Vous faites un manuel de cartographie qui est un des plus originaux que j'ai pu voir récemment, mais de manière aussi plus ancienne. En fait, vous faites un manuel aussi pour entrer dans l'anthropocène. C'est clair qu'on rentre par votre manuel dans l'anthropocène ou ce qui pourrait être l'anthropocène, ou toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Ce qui fait que déjà l'anthropocène, ou ce qu'on appelle comme ça, mais qui pourrait être appelé autrement, c'est déjà très perturbant. Toute la proposition visuelle que vous, la grammaire que vous décomposez est aussi très perturbante, ce qui nous donne plein de pistes possibles pour imaginer d'autres cartes. Néanmoins, les cartes, notamment les cartes qui ont pu être faites, qui sont faites à l'Institut, qui sont faites dans les agences, qui sont faites à la data, enfin tout ce qui concourt à la carte d'aménagement, on va dire, en sens très large, à la fois cognitive mais aussi prospective, utilise beaucoup des images qu'on a déjà en tête, c'est-à-dire tout un référentiel que Bernard de Barbu avait appelé l'intériconicité. C'est comment on utilise des cartes en utilisant déjà des référentiels qu'on a en tête. Et là, vous perturbez tellement le regard, dans tous les sens du terme, hein, que ça va être très compliqué de pouvoir le rendre concret et opérant, pas qu'en le fabriquant, hein, mais aussi dans la réception que vont avoir ceux qui vont les utiliser. Je voulais savoir si vous aviez réfléchi à ça, et quelque part c'est une question en forme de proposition, parce que moi je serais très contente de réfléchir avec vous à ce sujet-là.
Bah, c'est une question qui revient tout le temps, mais et, enfin, en fait... Là, justement, on est dans une suite où on les teste. Par exemple, paysage vivant, on l'a fait avec des enfants de 10 ans. Donc, en fait, c'est, voilà. Donc, OK, ils ont une capacité de compréhension de l'abstraction, peut-être qu'on perd quand on grandit.
Carrément.
Mais en tout cas, enfin, voilà, après, on parlait de territoire partagé avec eux. Voilà, ça permettait, c'était presque de la sensibilisation. Ce que fait Alexandra avec les scientifiques, c'est un peu différent. Justement, le modèle permet de faire entrer des données scientifiques complexes. Donc, effectivement, il y a plein d'échelles. Après, sur la question, justement, de l'aménagement, c'est là où le pas est le plus difficile à faire et c'est ce sur quoi on essaye de travailler. Mais, effectivement, c'est pas des... Pour l'instant, on n'a pas de protocole tout fait. On a des boîtes à outils.
C'est ce qui fait la richesse aussi de ce que vous avez produit, mais qui va être la complexité de l'application. Hein.
Et du coup, l'idée aussi, c'est d'attendre de voir aussi comment les différentes disciplines s'en saisissent et qu'est-ce qu'ils en font. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a plein d'alliances à imaginer que nous, on n'a pas imaginé. Justement, on teste les outils et on voit que justement, on peut superposer tous les outils sur un même territoire et ça sert à par exemple une analyse comparative. On peut adapter en zoomant. Enfin, c'est comme si on avait aussi un objet qu'on est en train de tester et voir les limites de nos outils, voir à quoi ils servent vraiment, à qui ils peuvent vraiment servir. Donc voilà, c'est tout un chantier en cours et effectivement... Enfin, nous, on est très ouvertes. Voilà, les cartes qu'on a réalisées, elles sont basées sur des datas. Peut-être que tu dirais un mot dessus sur un type de data spécial. Enfin, mais on n'avait pas accès à non plus.
C'est aussi une difficulté de l'exploration de ces sujets-là, à la fois dans les sujets, mais aussi dans la manière dont on les représente. Oui.
Du coup, voilà, il y a plein de possibilités et d'alliances à monter.
Moi, j'en ai plein en fait, mais pour rien vous cacher, je suis intervenue au colloque de Cerisy, que vous connaissez peut-être cet été, et c'était sur refonder les images d'aménagement de territoire. Et il y a j'avais plein de choses à dire, mais j'ai utilisé beaucoup votre livre en disant que de toute façon ce serait quand même vous qui serez les mieux placés pour en parler, mais ça a été une grosse base, donc je l'ai décortiqué beaucoup. Donc il y a énormément de questions qui se posent. Et j'en ai une sur la couleur, parce que c'est vrai que ça m'a, je pense que je suis pas la seule. Je me suis demandé si c'était une contrainte toute bête d'impression, ou si vous aviez fait ce choix et pourquoi vous l'aviez fait.
Oui, c'était pour rappeler les blueprints, c'est ça le... Les blueprints, les espèces de feuilles, c'était aussi pour avoir une seule couleur, aussi dire ce que le plus important, c'est la structure, le schéma, pour le moment.
Et d'accord. Après, parce que la couleur dans la cartographie, c'est quand même quelque chose de très puissant. Vous allez tester après avec des couleurs ou rester quand même sur un monochromatique?
Bah, j'avais testé avec les couleurs, justement, avec les enfants, où là, on décortiquait par geste, et du coup, c'était plus facile. Mais l'idée, non, c'est vrai que le monochrome, c'était une base qu'on n'a jamais vraiment trop rediscutée, comme la disparition du fond de plan. C'était vraiment partir de... et c'était notre idée du manuel, c'est-à-dire on a une feuille blanche et on a un stylo. Et alors là, c'est inversé, il y a un rapport d'inversion, parce que quand même, il y avait Frédéric et toute la question de la cosmologie, toute cette référence à l'univers... cosmologique, donc voilà pourquoi le noir, mais en tout cas le monochrome est je pense que c'est un invariant.
S'il n'y a pas d'autres questions, du coup je vous invite à consulter le livre, voire à l'acheter. Tanguy peut vous faire des fiches de lecture aussi. Enfin, moi aussi ceci dit, parce que je suis pas encore arrivée complètement au bout, mais à chaque fois c'est marrant parce que enfin, tu l'évoquais tout à l'heure, Axel, on peut rentrer plusieurs façons dans cet ouvrage. Oui, bêtement, j'y suis rentrée par le début. Après, j'ai commencé à survoler, et puis je suis revenue, et plus je rentre dedans, plus je trouve ça très très riche, et plus je découvre des choses que je n'avais pas soupçonnées au départ, parce que c'est vrai que rentrer dedans au départ, c'est, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est forcément dérouté parce qu'on part sur une inversion. Et d'ailleurs, il y a quand même la question de savoir, est-ce que cette inversion était indispensable? Ce serait une question à se poser aussi. Quand on lit, on se rend compte que oui. Mais en première abroche, on se dit c'est quand même très très déroutant que se dire que le monde est le centre. Mais bon, bref, je fais des raccourcis, excusez-moi. Et bref, tout ça pour dire que c'est quelque chose de très riche et qui, moi en tout cas, de mon prisme de cartographe, m'a vraiment donné envie d'aller explorer des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, nous, en aménagement, ici. C'est-à-dire, encore une fois, finalement, la carte, même si on essaye de faire en sorte qu'elle nous permette de représenter ce qu'on ne voit pas, en l'occurrence, ce qu'on ne voit pas, souvent, c'est des proportions, des densités, des quantités, etc. Et au bout du bout du bout, on peut se dire, et finalement, le vivant, il est où dans tout ça? Et que finalement, bah, peut-être qu'on a aussi du mal, nous, dans ces représentations qu'on fait, qu'on produit, à rester connecté justement sur ce vivant. Et moi, il y a une autre approche qui m'intéresse particulièrement, c'est celle de à la fois du changement d'échelle que vous abordez et cette notion du temps, mais que vous abordez de manière très symphonique. Je me trompe pas. que je trouve super intéressante parce que nous, on peut avoir l'habitude de voir des cartes qui sont déformées. On peut voir effectivement la France qui change de forme selon les temps de trajet en train. Voilà, et qu'on voit cette espèce de déformation selon que le temps est court. Mais pour vous, c'est au-delà de ça. C'est encore une autre approche que je trouve. Alors après, effectivement, il y a la question de comment concrétiser ce genre d'approche et de langage cartographique que vous avez créé, mais sans aller forcément jusque-là, moi, ça me force à me poser la question de... voilà, il y a peut-être des aspects dans mes productions cartographiques qu'il faut que je réfléchisse ou que je pousse davantage pour mettre en évidence certaines choses. Et pour toutes ces raisons, je vous remercie parce que ça a été vraiment une vraie découverte. Je ne sais pas si vous aviez encore quelque chose à dire.
Vous remercier aussi pour l'accueil, la très belle impression. Et puis merci d'avoir été là, tout simplement.
Et pour ceux qui vont lire le livre, un petit conseil de lecture, c'est un livre qui nécessite une forme d'appropriation ou d'apprentissage. Un peu comme si on vous demandait de voler et vous dites ben non, je peux pas, j'ai pas d'aile. Et puis à force de rentrer dedans, ben vous allez voler. Voilà. Réellement, c'est ça. Enfin, moi, les premières fois que je l'ai ouvert, je me suis dit mon cerveau a réellement des limites. Je le savais, oui. Mais en fait, là, voilà, je me suis heurtée assez vite à ces limites. Et en fait, c'est comme si d'un coup, ces limites se disparaissaient. Voilà. C'est assez intéressant, ça. C'est un livre qui ouvre. Voilà, pour de vrai.